Chapitre 4. Le vol de Tintaglia. Le ciel n'était pas bleu, certes non. Elle avait pris son vol plus d'une fois, mais comparé à sa couleur étincelante, rien ne pouvait prétendre à ce bleu. Le dragon Tintaglia arqua son dos et admira le soleil qui argentait ses écailles d'un bleu profond. Beauté indicible. Pourtant, cette merveille même ne parvenait pas à distraire son œil aiguisé, son odorat plus aiguisé encore de ce qui importait davantage que sa splendeur. Son repas se déplaçait loin en dessous dans une clairière. Une biche, grasse de sa pâture d'été, se hasardait avec trop de témérité à quitter la forêt. Insensé. Autrefois, aucun daim ne serait sorti à découvert sans avoir au préalable jeté un coup d'œil prudent dans le ciel. Les dragons avaient-ils disparu depuis si longtemps du monde que les bêtes à sabots aient ainsi renoncé à se méfier du ciel? Elle allait bientôt leur apprendre. Tintaglia replia ses ailes et piqua vers la terre. Ce fut seulement quand elle fut trop proche pour que la biche puisse fuir qu'elle donna le ton de chasse. La sonnerie musicale de son « qui-i-i » alors qu'elle fondait sur sa proie déchira la paix matinale. Les serres de ses membres antérieurs saisirent l'animal, le plaquèrent sur son poitrail tandis que les massives pattes postérieures absorbaient le choc de l'atterrissage. Elle rebondit sans effort en emportant la biche. La bête, en état de stupeur, ne bougeait pas. Une rapide morsure à l'encolure l'avait paralysée. Tintaglia emporta sa proie sur une corniche rocheuse surplombant la vallée du fleuve du désert des pluies. Là, elle lapa le sang qui formait une flaque avant de cisailler de gros morceaux rouges sombres pour assouvir sa faim, rejetant la tête en arrière pour les avaler. L'extraordinaire volupté qu'elle éprouvait à manger faillit la terrasser. Au goût de la viande chaude et saignante, à l'odeur fétide des tripes répandues, se mêlait la sensation de réplétion de ses entrailles. Elle sentait son corps se régénérer. Jusqu'au soleil baignant ses écailles qui la gorgeaient. Après son repas, elle s'était étirée pour dormir, quand une pensée agaçante fit irruption. Avant sa chasse, elle avait été sur le point de faire quelque chose. Elle contempla la lumière du soleil qui jouait sur ses paupières closes. Qu'était-ce? Ah, les humains. Elle avait eu l'intention de porter secours aux humains. Elle poussa un lourd soupir et sombra plus profondément dans le sommeil. Mais elle ne leur avait rien promis, car la promesse faite à un insecte engage-t-elle un être comme elle? Quand même, ils l'avaient délivrée. Mais ils étaient probablement morts, et il était sans doute trop tard pour les sauver de toute façon. Paresseusement, elle laissa son esprit flotter vers eux. Ce fut presque irritant de découvrir qu'ils étaient tous deux encore en vie, quoique leurs pensées fussent réduites à un simple bourdonnement de moustiques. Elle releva la tête avec un soupir, puis s'éveilla suffisamment pour se remettre sur pattes. Elle transigea. Elle irait au secours du mâle. Elle savait exactement où il se trouvait. La femelle était tombée à l'eau quelque part. Elle pouvait être n'importe où à cette heure. Tintaglia s'avança à pas mesurés jusqu'au bord de la falaise et s'élança.
« J'ai tellement faim !»
dit Selden en frissonnant. Il se pressa davantage contre Rain, cherchant la chaleur que le jeune homme perdait rapidement lui-même. Il n'avait même pas le courage de répondre au garçon tremblant. Ils étaient allongés sur une natte de branchages qui s'enfonçait petit à petit dans la vase montante. La boue l'engloutirait bientôt, avec leur dernier espoir. La seule issue se trouvait très haut au-dessus de leur tête. Ils avaient bien tenté de construire une plateforme de débris, mais à mesure qu'ils amassaient la terre et les branches, la vase les avalait. Rain savait qu'ils allaient mourir là, et tout ce que le gamin trouvait à faire, c'était de pleurnicher qu'il avait faim. Il eut envie de le secouer pour lui rendre un peu de raison, mais il passa un bras autour de ses épaules et lui dit pour le réconforter « Quelqu'un a dû voir le dragon. Ma mère et mon frère le sauront et devineront d'où il est sorti. Ils vont envoyer du secours. » En son fort intérieur, il doutait de ses paroles. « Repose-toi un peu.
J'ai tellement faim !»
répéta désespérément Selden. Il soupira.
En un sens, cela valait la peine. J'ai vu le dragon s'envoler.
Il tourna le visage vers la poitrine de son compagnon et se tut. Rain baissa les paupières. Était-il possible que ce soit aussi simple que cela? S'endormir simplement et mourir? Il tâcha de penser à quelque chose d'assez important qui l'inciterait à continuer la lutte. Malta. Mais Malta était probablement déjà morte, quelque part dans la cité effondrée. La cité elle-même était la seule chose à laquelle il tint avant de rencontrer Malta, et elle était en ruine, tout autour de lui. Il n'exhumerait jamais ses secrets. Peut-être mourir ici en devenant l'un de ses secrets serait-ce s'en approcher autant qu'il était possible. Il découvrit dans son cœur l'écho des paroles de Selden. Au moins, avait-il délivré le dragon. Tintaglia était ressuscité et s'était envolé, libre. C'était quelque chose, mais ce n'était pas une raison suffisante pour continuer de vivre. Peut-être était-ce une raison suffisante pour mourir satisfait. Il l'avait sauvé. Il sentit une légère secousse, suivie par un bruit d'éclaboussement alors qu'une cascade de terre dégringolait du trou pour s'écraser dans la vase. Peut-être le plafond tout entier allait-il s'effondrer, ce qui leur procurait une mort rapide. Une bouffée d'air frais lui effleura le visage, chargé d'une forte odeur de reptile. Il rouvrit les yeux et aperçut la tête de Tintaglia, de la taille d'un poney, passer à travers l'ouverture.
« Encore vivant !»
dit-elle en manière de salut.
« Tu es revenu ? »
fit-il incrédule. Elle ne répondit pas. Elle retira la tête et de ses pattes antérieures munies de serre, elle commença à affouiller le sol autour de l'orifice. Des roches, de la terre et des fragments de plafond se mirent à pleuvoir dans la salle. Selden se réveilla en poussant un cri et se blottit tout tremblant contre Rain. « Non, tout va bien. Je crois qu'elle essaie de nous venir en aide. »
Il se voulait rassurant en abritant le garçon de l'averse de débris.
La terre, les pierres dégringolaient et le trou s'élargit. Une lumière plus vive s'infiltra dans la pièce.
« Grimpez là-dessus !»
ordonna soudain Tintaglia. Elle glissa la tête en tenant dans ses mâchoires serrées un gros tronçon d'arbre, comme un terrier qui rapporte un bâton. Ses naseaux fumaient dans la fraîcheur de l'air et la puanteur de reptile était suffocante. Rain rassembla ses dernières forces pour se mettre debout et soulever Selden de façon qu'il puisse escalader le tronc. Lui-même le saisit par l'autre bout. Dès qu'il s'y fut cramponné, le dragon les hissa. Ils restèrent brièvement coincés dans l'orifice, mais elle secoua brutalement le tronçon pour le dégager, superbement indifférente à leur faible prise sur le bois. Un instant plus tard, elle les déposait sur la terre moussue. Ils se retrouvaient affalés sur un tertre isolé au milieu de la forêt marécageuse, avec sous leurs pieds le dôme enseveli depuis des siècles. Selden s'éloigna en titubant du tronçon d'arbre et s'affaissa en pleurant de soulagement. Rain chancelait mais découvrit qu'il tenait debout.
« Merci, »
parvint-il à articuler.
« Tu n'es pas obligé de me remercier, j'ai tenu parole. »
Elle dilata les naseaux et souffla une haleine fumante qui le réchauffa.
« Tu vas vivre maintenant ?»
C'était autant une constatation qu'une question. Ses jambes se mirent à trembler et il se laissa tomber sur les genoux.
« Si nous pouvons rentrer bientôt à Troisnous, nous avons besoin de manger et de nous réchauffer. »«
Je peux vous y amener, j'imagine, »
concéda-t-elle de mauvais gré.
« Ça, merci, »
souffla Rain dans la prière la plus fervente qu'il eût jamais prononcée. Il se remit sur pied et s'avança en titubant vers Selden. Il se pencha, empoigna le petit garçon avec l'intention de le soulever, mais... il s'aperçut qu'il n'en avait pas la force. Il ne put que le tirer pour le mettre debout. En le traînant à demi, il se dirigea d'un pas vacillant vers Tintaglia.
« Je suis à bout de force, » dit Rain. « Il faut que tu t'accroupisses pour qu'on grimpe sur ton dos. »
Les yeux d'argent du dragon roulèrent de dédain.
« M'accroupir, vous sur mon dos? Non, je ne crois pas, humain. »
Mais Tu as dit que tu nous emmènerais à Troinous.
C'est juste. Mais aucune créature ne me chevauchera jamais, encore moins un humain. Je vous porterai dans mes serres. Mettez-vous devant moi tous les deux. Je vais vous transporter jusque chez vous.
Rein regarda avec hésitation les pattes écailleuses. Les griffes étaient argentées, étincelantes et acérées. Il voyait mal comment elle pourrait les porter en les serrant sans les empaler. Il baissa les yeux vers Seldon dont le visage tourné vers lui reflétait ses doutes. « Tu as peur ? » demanda-t-il à mi-voix. Seldon réfléchit un moment.
« J'ai encore plus faim que peur, »
conclut-il. Il se redressa. Son regard erra sur le dragon. Quand il reposa les yeux sur Rein, il était radieux. Il secoua la tête émerveillée.
« Les légendes, les tapisseries et les peintures, elles sont si pâles comparées à son éclat. Il est trop extraordinaire pour qu'on doute ou qu'on ait peur. Même s'il me tue maintenant, je mourrai dans sa splendeur. »
Rein fut saisi par les paroles extravagantes du gamin. Seldon rassembla ses dernières forces en respirant profondément. Son compagnon devinait ce qu'il lui en coûtait de se tenir droit et de déclarer
« Je le laisserai me transporter. »
« Ah, vraiment ! »
fit le dragon sur un ton narquois et malicieux. Ses yeux pétillaient d'amusement et de plaisir à la flatterie du garçon.
« Oui, »
déclara fermement Rein. Seldon garda le silence mais ouvrit tout grand la bouche quand le dragon recula brusquement sur ses postérieurs. Il se dressa au-dessus d'eux. Rein eut toutes les peines du monde à rester immobile tandis que Tintaglia tendait ses pattes griffues. Il tint le gamin contre lui et ne broncha pas quand elle referma ses serres autour d'eux. Les pointes des griffes se promenèrent sur lui, prenant sa mesure avant de l'envelopper. Les extrémités acérées de deux serres étaient posées sur son dos. La sensation était désagréable mais pas douloureuse. Elle les étreignit contre son poitrail, tel un écureuil qui protège sa précieuse noisette. Seldon poussa un cri involontaire quand le dragon s'accroupit sur ses énormes postérieurs et bondit vers le ciel. Ses ailes bleues battaient. Ils montaient régulièrement. La forêt se referma derrière eux. Rein tordit le cou et découvrit le spectacle vertigineux du faîte des arbres en dessous. Son estomac se serra, mais bientôt son cœur se dilata d'émerveillement. Il oublia presque sa peur devant ce panorama nouveau et impressionnant. Verdoyante, foisonnante, la vallée se déployait loin au-dessous d'eux. Le dragon les emportait toujours plus haut dans un tourbillon qui s'élargissait et lui permettait d'entrevoir le fleuve serpentant parmi la végétation luxuriante. Les eaux étaient d'un gris plus pâle qu'à l'ordinaire. Parfois, après de violents tremblements de terre, elle coulait blanche et acide des jours durant, et quiconque y naviguait était bien avisé de veiller à son embarcation. Quand le fleuve était blanc, il avait tôt fait de ronger le bois. Le dragon inclina les ailes, et ils se balancèrent au-dessus des terres en amont du fleuve. Alors, Rein aperçut et sentit Troinous. Vue d'en haut, la cité était suspendue dans les branches comme une guirlande de lanternes décoratives. La fumée des foyers montait dans l'air serein.
« Voilà !»
Il cria le mot, répondant à la question informulée du dragon, puis il se rendit compte qu'il n'avait pas besoin de s'exprimer à voix haute. Avec la proximité, leur ancien lien s'était rétabli. Il eut un fugace pressentiment qui le glaça, puis sentit la réponse sardonique du dragon. Il n'avait pas à s'inquiéter. Il n'entrait pas dans les projets de Tintaglia d'avoir encore affaire aux humains. Rein se félicita d'avoir l'estomac vide quand ils descendirent en spirale vertigineuse. Il entrevit dans un tourbillon la cité et le fleuve, des silhouettes éparses qui criaient et les montraient du doigt. Il sentit le dépit du dragon qui constatait l'absence de terrain assez vaste et plat pour se poser. Quelle sorte de cité était-ce donc là ? Et ils atterrirent sans douceur sur les quais. Les plateformes flottantes adaptées au débit du fleuve cédèrent sous le choc. Une gerbe blanche jaillit des bords du quai, faisant rouler dangereusement le Kendry. Éperdu, la vive nef poussa un rugissement. Alors que le quai remontait en se balançant sous le poids du dragon, Tintaglia ouvrit ses serres. Rain et Selden tombèrent à ses pieds. Elle s'écarta d'eux en pivotant et planta ses pattes antérieures dans le bois.
« Maintenant, vous allez vivre !»
affirma-t-elle.
« Maintenant, nous allons vivre !»
dit Rain, pantelant. Selden gisait comme un lapin assommé. Rain prit conscience du martèlement des pas et des susurrements étouffés. Il leva les yeux. Une véritable marée humaine se déversait sur l'embarcadère. Nombre de figures étaient barbouillées après les longues fouilles dans la boue. La fatigue se lisait sur les visages ahuris. Certains avaient à la main des outils en guise d'armes. Tous s'arrêtèrent à l'extrémité du quai. Les cris d'incrédulité montèrent en une clameur confuse. Les spectateurs restaient bouche bée et pointaient le doigt vers Tintaglia. Rain aperçut sa mère qui se frayait à coups de coude un chemin à travers la foule. Quand elle atteignit le premier rang des curieux pétrifiés d'effroi, elle s'avança seule, prudemment, vers le dragon. Puis, elle vit son fils et perdit tout intérêt pour la gigantesque créature.
« Rain !»
demanda-t-elle incrédule.
« Rain !»
Sa voix se brisa en prononçant son nom.
« Tu es vivant, ça soit loué !»
Elle courut vers lui et s'agenouilla. Il tendit le bras, étreignit sa main.
« Il est vivant !»
dit-il.
« J'avais raison. Le dragon est vivant !»
Un long gémissement les interrompit. Rain vit Kefria se dégager des curieux agglutinés et se précipiter vers Selden le long du quai. Elle s'agenouilla près de lui et le prit dans ses bras.
« Oh, ça, merci, il est vivant! Mais Malta, où est Malta? Où est ma fille ?»
Rain prononça les mots difficiles. « Je ne l'ai pas trouvée. Je crains qu'elle n'ait péri dans la cité. » Comme un vent qui se lève, le cri monta de la gorge de Kefria, un hurlement déchirant.
« Non, non, non !»
Selden pâlit dans son étreinte. Les traits du rude petit gars, le compagnon de Rain dans l'épreuve, frémirent soudain et retrouvèrent leur expression enfantine. Il ajouta ses sanglots à la plainte de sa mère.
« Maman, maman, ne pleure pas, ne pleure pas !»
Il l'attirait sans pouvoir capter son attention.
« Celle que vous appelez Malta n'est pas morte !»
intervint brusquement le dragon.
« Cessez ces braillements et ces pleurnicheries exagérées !»«
Pas morte ?»
s'exclama Rain. Selden lui fit écho. Il empoigna sa mère gémissante et la secoua.
« Maman, écoute, tu n'as pas entendu ce que vient de dire le dragon ? Il a affirmé que Malta n'est pas morte. Arrête de pleurer, Malta n'est pas morte !»
Il tourna vers Tintaglia un regard brillant.
« Tu peux croire le dragon. Quand il m'a porté, j'ai senti sa sagesse me pénétrer jusqu'aux os. »
Derrière eux, sur les quais, la clameur croissante noya les paroles de Selden. Certains poussaient des exclamations stupéfaites.
« Il a parlé ! Le dragon a parlé ! Vous avez entendu ?»
Quelques-uns opinaient du chef, surpris, tandis que d'autres interrogeaient leurs voisins.
« Je n'ai rien entendu. Il a renâclé, c'est tout. »
Les yeux argentés de Tintaglia se ternirent de dégoût.
« Leur esprit est trop petit pour parler au mien. Humain !»
Elle assouplit son long col.
« Écarte-toi, reine Rupus. J'en ai fini avec toi et ta race désormais. J'ai rempli le contrat. »
« Non, attends !»
Rain se dégagea d'une secousse de l'étreinte de sa mère. Il saisit hardiment le bout griffu de l'aile étincelante de Tintaglia.
« Tu ne peux pas t'en aller déjà. Tu as dit que Malta était vivante. Mais où est-elle? Comment sais-tu qu'elle vit? Est-elle en sécurité ?»
Le dragon se libéra sans effort.
« Nous avons été liés un moment, comme tu le sais, reine Rupus. En conséquence, je conserve une certaine conscience d'elle. Quant à l'endroit où elle se trouve, je l'ignore. Je sais seulement qu'elle flotte sur l'eau, sur le fleuve, je présume, si j'en juge par sa peur. Elle a faim, elle a soif, mais je ne crois pas qu'elle soit blessée. »
Rain tomba à genoux devant le dragon.
« Emmène-moi à elle, je t'en supplie. Je serai jamais ton débiteur si tu fais seulement cela pour moi. »
Une lueur d'amusement passa sur la face du dragon. Ses yeux chavirèrent, ses naseaux se dilatèrent légèrement.
« Je n'ai pas besoin de tes services, humain, et ta compagnie m'ennuie. Adieu !»
Il souleva les ailes et commença à les ouvrir.
« Écarte-toi de moi si tu ne veux pas être renversé !»
Mais Rain bondit près de lui. Le corps aux écailles lustrées n'offrait aucune prise à ses mains tâtonnantes. Il se jeta à sa patte antérieure et l'entoura de ses bras, comme un enfant s'accroche à sa mère. Mais ses paroles étaient pleines de force et de fureur.
« Tu ne peux pas t'en aller, dragon Tintaglia, et laisser mourir Malta. Tu sais qu'elle en a fait autant que moi pour te délivrer. Elle s'est ouverte aux souvenirs de la cité. Elle a découvert les mécanismes secrets qui commandaient le grand mur. Si elle n'était pas venue te chercher, je n'aurais pas pénétré dans la cité pendant un tremblement de terre. Tu serais enseveli à l'heure qu'il est. Tu ne peux pas ignorer cette dette. Tu ne peux pas !»
Il eut vaguement conscience derrière lui des questions confuses et de la conversation entre sa mère, Seldon et Kefria. Peu lui importait d'être entendu, peu importait ce que le garçon leur racontait. Il ne pensait qu'à Malta.
« Le fleuve est blanc, » poursuivit-il. « Les eaux blanches rongent les bateaux. Si elle est sur un tronc d'arbre ou un radeau, l'eau va le dévorer et elle avec. Elle mourra parce qu'elle s'est risquée dans la cité pour tenter de te sauver. »
Les yeux du dragon tourbillonnèrent, argent moucheté d'écarlate, si grande était sa colère. Il souffla un jet d'haleine brûlante qui faillit le renverser. Puis, d'une patte, il le souleva de terre, comme s'il n'était qu'une poupée de son. Les serres se refermèrent cruellement autour de sa poitrine. Rain pouvait à peine respirer.
« Très bien, insecte !»
siffla Tintaglia.
« Je vais t'aider à la retrouver. » Mais après ça, j'en ai fini avec toi et les tiens. Quel que soit le bien que vous m'ayez fait, elle et toi, ta race a causé de grands préjudices à la mienne. »
Elle le souleva et le lança vers la vive nef. Kendry les regardait fixement. Il avait la figure d'un mourant.
« Ne crois pas que je ne sais pas. Prie pour que j'oublie, prie pour que, après ce jour, tu ne me revoies jamais. »
Rain, à bout de souffle, était incapable de répliquer, et elle n'attendit pas sa réponse. D'un bond puissant, elle jaillit en avant. Le brusque vacillement du quai fit tomber ceux qui s'y étaient aventurés. Rain entendit le cri d'horreur de sa mère lorsque le dragon l'emporta, puis les bruits s'éteignirent dans le vent rapide de leur ascension. Il n'avait pas deviné le soin que Tintaglia avait pris de lui et de Seldon durant leur précédent vol. Maintenant, elle s'élevait si rapidement que le sang battait à ses tempes et que ses oreilles éclataient. Son estomac était certainement resté loin en dessous. Il sentit la fureur qui bouillonnait en elle et lui avait fait honte devant des humains en prononçant son nom. Il avait révélé son nom aux autres qui ne le méritaient pas. Il reprit haleine mais ne se décida pas à parler. S'excuser, c'était peut-être commettre une erreur aussi grave que de lui avoir rappelé ce qu'elle devait à Malta. Il se tint coi et s'agrippa aux griffes en tâchant de desserrer leur étreinte autour de ses côtes.
« Tu veux que je les relâche, reine Rouprous ?»
demanda le dragon sur un ton moqueur. Elle ouvrit les serres, mais avant qu'il ait glissé vers sa mort, elle les referma brusquement. Suffoquant de terreur, il sentit qu'elle arrêtait leur ascension, le corps à l'oblique, et qu'elle les entraînait dans une large spirale au-dessus du fleuve. Ils étaient à trop haute altitude pour apercevoir quoi que ce soit. La terre boisée était un tapis moussu, onduleux, le fleuve réduit à un ruban blanc. Elle s'adressa à lui par la pensée.
« Les yeux d'un dragon ne sont pas ceux d'un oiseau de proie, petite créature de chair. » « Je vois comme il faut d'ici. Elle n'est pas en vue. Elle a dû être poussée en aval. »
Le cœur de Rain fit un bond dans sa poitrine.
« Nous la retrouverons, »
assura le dragon de mauvaise grâce.
Ses grandes ailes se mirent à battre régulièrement, les menant en aval du fleuve.
« Descends plus bas !» supplia Rain. « Laisse-moi la chercher des yeux. Si elle est dans les bas-fonds, elle peut être cachée par les arbres, je t'en prie !»
Tintaglia ne répondit pas, mais descendit si rapidement que la vue de Rain se brouilla. Elle survolait le fleuve. Il se cramponnait à ses serres des deux mains et s'efforçait d'embrasser du regard toute la surface du fleuve et de ses berges. Le vol était trop rapide. Il tenta de se persuader que les sens plus aiguisés du dragon découvriraient Malta si lui la manquait, mais au bout d'un moment, le désespoir s'empara de lui. Ils étaient allés trop loin. S'ils ne l'avaient pas encore retrouvée, c'était qu'elle n'était plus là.
« Là !»
s'exclama soudain Tintaglia. Il regarda, mais ne vit rien. Elle vira sur l'aile, tourna aussi adroitement qu'une hirondelle et le ramena au-dessus de la même étendue d'eau.
« Là, dans ce petit bateau, avec deux autres, presque au milieu du fleuve, tu la distingues maintenant ?»«
Oui !»
La joie jaillit en lui, aussitôt suivie par l'horreur. Il l'avait retrouvée. Et alors que Tintaglia le transportait plus près, il reconnut le gouverneur et sa compagne. Mais la voir, ce n'était pas encore la sauver.
« Tu peux l'enlever du canot ? » demanda-t-il.
« Peut-être. Si je te lâche et que je submerge l'embarcation par la même occasion, j'ai une chance de pouvoir l'attraper et elle n'aura que des côtes cassées. C'est ça que tu veux ?»«
Non. »
Il réfléchit frénétiquement.
« Est-ce que les dragons savent nager? Tu ne pourrais pas te poser près d'elles ?»«
Je ne suis pas un canard !»
Son dégoût était manifeste.
« Si les dragons décident de se poser sur l'eau, ils ne s'arrêtent pas à la surface, mais plongent jusqu'au fond et en ressortent en marchant. Je ne crois pas que tu apprécierais l'expérience. »
Il se raccrochait à la moindre lueur d'espoir.
« Tu ne pourrais pas me lâcher dans le canot. »«
Pourquoi faire ? Te noyer avec elle ? Ne dis pas de bêtises. Le vent de mes ailes ferait chavirer le bateau bien avant que je m'en approche assez pour te lâcher exactement dessus. Humain, j'ai fait ce que j'ai pu. Je l'ai retrouvée pour toi. Maintenant, tu sais où elle est. À toi et aux autres humains de la sauver. Mon rôle dans sa vie est terminé. »
Piètre réconfort. Il avait vu Malta lever la tête vers eux alors qu'il la survolait. Il croyait presque l'avoir entendu crier, le supplier de venir à son secours. Pourtant, le dragon avait raison. Il ne pouvait rien pour elle sans leur faire courir un grand danger à tous.
« Ramène-moi à Troinous, vite !»
supplia-t-il.
« Si le Kendri appareille maintenant pour aller la chercher, qu'il mette toute la toile, on peut encore rejoindre le canot avant que le fleuve ne le détruise. »
« Voilà qui est sage !»
grommela le dragon sur un ton sarcastique.
« Il aurait été encore plus sage de t'embarquer immédiatement au lieu de me demander ce service. Je t'avais dit qu'elle était sur le fleuve. »
La froide logique du dragon était décourageante. Rain ne trouva rien à répondre. Tintaglia agita ses ailes puissantes et s'éleva au-dessus de la forêt aux multiples dais. La terre filait rapidement tandis qu'elle le ramenait à Troinous.
« Tu ne peux vraiment plus m'aider ?»
s'enquit-il d'une voix pitoyable alors qu'elle décrivait des cercles au-dessus de la cité. En l'apercevant, les gens qui se trouvaient sur le quai coururent vers le rivage. Le vent de ses gigantesques ailes qu'elle agitait lentement pour freiner leur descente secoua le Kendri. Son lourd arrière-train amortit le choc de l'atterrissage alors que le quai s'enfonçait et tressautait sous le poids. Elle soulevait Rain dans ses serres, se dévissant le cou et tournant la tête pour poser sur lui un énorme œil argenté.
« Petit humain, je suis un dragon. Je suis le dernier seigneur des trois règnes. S'il reste quelque part un membre de ma race, je dois le rechercher et l'aider. Je ne peux pas me soucier d'une brève étincelle comme toi. Alors débrouille-toi comme tu peux tout seul. Je pars. » « Je doute qu'on se revoie jamais. »
Elle le déposa sur ses pieds. Si elle avait eu l'intention d'être douce, elle avait échoué.
Alors qu'il s'éloignait en titubant, il sentit une brusque commotion, plus morale que physique. Il eut soudain l'impression affolante d'avoir oublié quelque chose d'une extrême importance. Puis, il comprit que son lien mental avec le dragon avait disparu. Tintaglia s'était coupé de lui. Cette perte l'étourdit. Il lui semblait avoir tiré une certaine vitalité de ce lien car, tout à coup, il eut conscience de sa faim, de sa soif et de son immense fatigue. Il réussit à faire quelques pas avant de tomber à genoux. C'était aussi bien du reste qu'il soit déjà à terre car il se serait affalé de toute façon quand le dragon secoua le quai en bondissant vers le ciel. Une dernière fois, le battement de ses ailes chassa vers lui une bouffée nauséabonde de son odeur de reptile. Hébété, il sentit des larmes de chagrin lui brûler les yeux. Le quai parut tanguer un long moment. Rain s'aperçut que sa mère s'agenouillait près de lui. Elle lui berça la tête dans son giron.
« Il t'a fait mal ? Rain, Rain, tu peux parler, tu es blessé ?»
Il respira à fond.
« Prépare le Kendri à appareiller immédiatement. Nous devons descendre au plus vite le fleuve. Malta, le gouverneur et sa compagne, dans un petit canot. »
Il s'interrompit, soudain trop épuisé pour trouver ses mots.
« Le gouverneur !»
s'exclama quelqu'un près de lui.
« Ça soit loué. S'il est vivant et qu'on puisse le récupérer, alors rien n'est perdu. Vite, au Kendri, préparez-le à appareiller !»«
Envoyez-moi un guérisseur !»
La voix de Yanirouprous résonna au-dessus des murmures qui s'élevaient soudain.
« Je veux qu'on transporte Rain à mes appartements. »
« Non, non !»
Il s'accrocha faiblement au bras de sa mère.
« Je dois partir avec le Kendri.
Tant que Malta ne sera pas en sécurité, je ne pourrai pas me reposer. »